Microcité.
Une émission de l'école de journalisme de Grenoble.
Sur Campus Grenoble 90.8. 16h30, 17h. Rudy Pupin.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Microcité, votre émission d'information hebdomadaire, ravi de vous retrouver. Au sommaire de cette dernière émission de l'année, comment impliquer les citoyens à la pratique démocratique? Avec les gilets jaunes, la question se pose. L'idée de référendum populaire a même émergé. On en parlera dans notre dossier avec Alexandre Lepère et ses invités en studio. Puis vous l'aurez remarqué, c'est bientôt les fêtes, l'occasion de découvrir un métier particulier, le métier de Père Noël. Léo Corcos a rencontré celui du marché de Grenoble, mais qui se cache derrière la barbe? Réponse dans notre long format. Voilà pour le programme, vous pouvez bien sûr nous suivre et réagir sur nos pages Facebook et Twitter, @microcité. Vous écoutez Radio Campus Grenoble, nous sommes ensemble jusqu'à 17h, et Microcité ça commence maintenant. D'abord un coup d'œil sur l'actualité, le journal Luc Chemla.
Emmanuel Macron est attendu à Strasbourg en fin de journée alors qu'une quatrième victime de l'attentat de mardi est décédée cet après-midi. On fera le point dans ce journal. À la veille de l'acte 5 des Gilets jaunes, on revient sur les annonces de l'Elysée lundi soir. Les entreprises joueront-elles le jeu de la prime de fin d'année? On a posé la question au président de la Confédération des PME de l'Isère. La semaine a aussi été marquée par la manifestation et la grève des avocats contre la réforme de la justice. Xavier Pourroy nous décryptera dans un instant ce projet de loi. Et puis, à l'approche de Noël, Julien Penaud a enquêté sur l'impact écologique des sapins naturels et artificiels.
Microcité.
Le bilan s'alourdit, 3 jours après l'attentat de Strasbourg, on vient tout juste de l'apprendre, une quatrième victime est décédée cet après-midi. Dans le même temps, le calme revient petit à petit dans la ville, alors que Sherif Shekat a été abattu hier soir par la police dans le quartier de Neudorf, où il s'était réfugié. Mardi soir, cet homme de 29 ans avait ouvert le feu tout près du marché de Noël. L'enquête se poursuit et les interpellations s'enchaînent. 7 des proches du terroriste sont actuellement en garde à vue. Daesh a revendiqué l'attaque cette nuit, une revendication totalement opportuniste, a déclaré ce midi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Emmanuel Macron est attendu en fin d'après-midi à Strasbourg.
À la veille de l'acte 5 des Gilets jaunes, c'est un peu le flou sur ce qui nous attend demain, Luc.
Et oui, alors que la semaine a été marquée par les attentats de Strasbourg, les porte-paroles du mouvement veulent continuer la manifestation et appellent à se rendre à Paris demain. Bien difficile de savoir quel sera le niveau de la mobilisation, mais les autorités anticipent d'éventuels débordements. 8000 policiers et gendarmes ainsi que 14 véhicules blindés seront mobilisés. En tout cas, l'exécutif aura tout fait pour éviter ce nouveau rassemblement. Lundi soir, Emmanuel Macron a tenté de mettre fin à la crise en annonçant une série de mesures sur le pouvoir d'achat. Parmi elles, la défiscalisation de la prime de fin d'année d'une valeur de 1000 euros. Reste à savoir maintenant si les entreprises sont prêtes à jouer le jeu. Réponse de Jérôme Lopez, président de la Confédération des PME de l'Isère.
La réaction première est plutôt positive. On apprécie toujours de pouvoir motiver nos salariés qui sont la première valeur de l'entreprise. On avait quand même plusieurs qui étaient déjà prêts à faire cette prime. Mais là, c'est un coup de pouce supplémentaire qui fait basculer certaines décisions en disant, du coup, je vais donner plus. La partie que j'aurais payée en charge, ça va aller dans la poche des salariés. Par contre, certains savent déjà qu'ils ne pourront pas la faire. La catégorie des commerçants qui ont souffert des événements de ces 5 dernières semaines avec de la perte de chiffre d'affaires déclare qu'ils auront du mal à faire une prime exceptionnelle de fin d'année. Ensuite, il faut que les résultats de l'année soient là, mais il y a environ un tiers des entreprises PME qui feront l'effort de faire cette prime pour récompenser le travail de leurs salariés. L'esprit, c'est rarement de dépasser ces 1000 euros. Le chiffre qui semble ressortir le plus souvent, c'est entre 300 et 500 euros.
Jérôme Lopez, président de la Confédération des PME de l'Isère, au micro de Julien Penaud. Après les gilets jaunes et les lycéens, le gouvernement a également fait face cette semaine à la colère des avocats et magistrats. Ils ont manifesté contre le projet de la réforme de la justice adopté mardi soir à l'Assemblée. Xavier Pourroy, bonjour.
Bonjour.
Cela fait plusieurs mois que ce projet de loi rebute les professionnels. Que prévoit concrètement ce texte?
Bien d'abord, la fusion entre les tribunaux d'instance qui gèrent les litiges jusqu'à 10 000 euros et les tribunaux de grande instance en charge des conflits plus conséquents. Le but de ces fusions, avoir une gestion plus précise des effectifs et des budgets, mais le gouvernement a tenté de rassurer en précisant qu'il n'y aurait pas de fermeture de tribunaux en tant que tel. Autre objectif de la loi, réduire le nombre de dossiers traités par les juges. Exemple, dans les divorces, la révision des pensions alimentaires pourra être faite directement par la CAF et plus par le juge aux affaires familiales. Plus largement, la chasse est faite aux petits litiges et c'est pour cela que le ministère mise sur la numérisation. On pourrait régler en ligne les conflits concernant des sommes inférieures à 5 000 euros via des plateformes privées et payantes.
un projet qui suscite donc la colère des avocats. Ils étaient en grève mercredi et manifestaient place Verdun à Grenoble. Parmi eux, Valérie Burda, avocate au barreau de Grenoble.
Nous avons un budget qui est ridicule, qui ne permet pas aujourd'hui ni aux magistrats, ni aux greffiers, ni aux avocats de rendre une justice correcte. Cette réforme, elle n'est faite que pour pallier à l'absence de finances qui sont données à la justice depuis des siècles. Entre l'éloignement qui est prévu géographiquement des tribunaux et entre le fait qu'on se dirige gentiment vers le fait de mettre la justice entre les mains de privés, on va devenir une justice d'argent. C'est l'humanité qui est complètement oubliée dans ce projet. C'est catastrophique.
Des propos recueillis par Xavier Pourroy. Et sachez que le projet contient aujourd'hui contient aussi un volet pénal avec une expérimentation de tribunal criminel départemental dans plusieurs régions. Il pourra juger les crimes allant jusqu'à 20 ans de réclusion pour désengager les cours d'assises. Et un dernier mot au sujet des contestations. Sachez qu'une manifestation a eu lieu ce matin à Grenoble contre le chômage et la précarité. Salariés, étudiants et même retraités ont défilé ensemble dans les rues de la ville. Ils étaient 850 selon la police, 2000 d'après les syndicats.
À l'approche de Noël, l'Agence nationale de sécurité sanitaire alerte à nouveau au sujet du slime.
Oui, vous avez sûrement entendu déjà parler de cette pâte gluante à malaxer que les enfants adorent préparer eux-mêmes. Pour en fabriquer, il faut notamment utiliser de la lessive, du sodium ou même de l'acide borique, des produits particulièrement néfastes. Selon l'Institut, les problèmes de peau ont doublé ces 6 derniers mois en France à cause notamment du slime et il invite les familles à en acheter en magasin plutôt que de le faire à la maison. L'avortement devient officiellement légal en Irlande. On l'a appris dans la nuit, les députés ont adopté le projet de loi qui autorise l'IVG sans condition jusqu'à 12 semaines de grossesse. C'est une avancée importante pour ce pays à forte tradition catholique. En mai dernier, les Irlandais ont approuvé cette réforme lors d'un référendum. 66% de la population était pour la légalisation. À 10 jours de Noël, vous avez peut-être prévu d'acheter ce week-end votre sapin, ce grand classique des fêtes de fin d'année. Chaque année, il s'en vend 6 millions en France. Mais entre le naturel et l'artificiel, lequel est le plus éco-responsable ? Julien Penaud a mené l'enquête à Grenoble.
Pour Marc et Yvette, pas de doute, question environnement, c'est le véritable conifère qui pollue le plus et non le sapin aux épines en plastique.
Il faut quand même le couper, il faut quand même que des bûcherons aillent sur place avec leur voiture, il faut le stocker en magasin. Je vous dis, moi je vais le chercher, donc je fais des allers-retours pour aller chercher le sapin.
On risque de le brûler, donc ça va faire des particules dans l'atmosphère. Que le plastique, je vais le garder longtemps.
Des sapins artificiels plus écologiques car plus durables, c'est aussi l'argument de Nesrine, chef du rayon Noël au Jiffy des Chirolles.
Un sapin naturel, on va l'utiliser une année, après les branches vont sécher. Ça va tomber, on va le jeter. L'année d'après, on sera forcé d'en acheter un autre.
Problème, pour amortir le bilan énergétique d'un sapin artificiel, il faut le garder minimum 20 ans. Or, la majorité s'en débarrasse au bout de 6. Pour Jérémy Raja, agriculteur et vendeur de sapins à Grenoble, malgré la déforestation, il vaut mieux acheter un véritable conifère.
Les sapins sont plantés chaque année, ils sont renouvelés, ils ont capté à eux du CO2. Donc c'est pas de la déforestation réellement par rapport à un sapin en plastique qui produit du CO2 et on sait très bien que le plastique n'est pas du tout éco-responsable.
Fabriqué à base de pétrole, le sapin artificiel a une empreinte carbone de 40 kg d'émissions de gaz à effet de serre, soit 10 fois plus qu'un sapin naturel jeté au feu.
Un reportage de Julien Penaud à Grenoble. Et si vous avez prévu d'acheter votre sapin ou vos cadeaux, sachez que les transports en commun seront totalement gratuits demain dans la capitale des Alpes.
Les handballeuses françaises n'ont pas le droit à l'erreur.
Et oui Rudy, elles affrontent ce soir à Paris les Pays-Bas en demi-finale du championnat d'Europe. Début du match à 21h. Ce n'est pas le même enjeu, mais il n'en reste pas moins un rendez-vous important pour poursuivre leur belle saison. Les footballeurs grenoblois reçoivent à 20h au stade des Alpes le Paris FC pour le compte de la 18e journée de Ligue 2. En cas de victoire, les Isérois peuvent monter sur le podium.
Merci Luc Chemlaï, on vous retrouve tout à l'heure en fin d'émission pour le rappel des titres.
Microcité.
Il est 16h39 sur Radio Campus Grenoble, vous écoutez Microcité. Dans un instant, notre débat sur les nouvelles formes de participation des citoyens à la démocratie. Cela juste après cette petite pause musicale.
Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A puddle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know. Snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all. cry a snowman. Don't you fear the sun. Who'll carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. Don't cry a snowman. Don't you shed a tear. Will you hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, oh, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole.
Death Snowman de Sia. Il est 16h41 sur Radio Campus Grenoble. Merci d'écouter Microcité. Place maintenant à notre débat.
Le dossier.
C'est l'une des revendications des Gilets jaunes. Elle a peut-être été éclipsée par les demandes sur la baisse des prix des carburants, mais elle existe. C'est le référendum d'initiative citoyenne. L'idée, Alexandre Lepère, c'est de redonner la parole au peuple.
Oui, Rudy, car ce référendum d'initiative citoyenne permettrait aux Français de proposer un texte de loi, de révoquer n'importe quel élu ou encore de changer la Constitution. Alors, est-ce que ce type de référendum, c'est l'une des solutions pour sortir de la crise sociale dans laquelle est plongé le pays ? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Philippe Varnier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le suppléant LREM de Catherine Kamowski, députée de la 5e circonscription de l'Isère, c'est bien ça ?
C'est bien ça, oui.
Face à vous aujourd'hui, Jean-Loup de Saint-Phal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiant et surtout l'un des représentants des Gilets jaunes à Grenoble.
Pas représentant, mais en tout cas un participant, oui.
D'accord, voilà pour la précision. Et pour bien planter le décor, il faut dire que cette proposition de référendum d'initiative citoyenne s'appuie sur un constat, la crise de la représentativité. Elle concerne les députés et surtout le président de la République. On le voit à chaque nouveau sondage, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est en chute libre. Le dernier indique 26% d'opinions favorables selon l'Institut Opinionway. Ma première question, elle est pour vous, Philippe Varnier. Le fait qu'aujourd'hui les citoyens ne se sentent plus représentés, c'est un échec pour vous ?
Non, moi je pense qu'il faut donner du temps au président qui est nouvellement élu, puisqu'il n'y a que 18 mois qu'il a démarré son mandat. Et donc les députés se sont mis en place, il y a énormément de choses qui ont été mises en place. Peut-être un certain nombre d'erreurs liées au démarrage du mandat, mais je pense que la représentativité citoyenne, elle est là, elle existe. Et il y a une proximité avec les citoyens qui est réelle.
Donc pour vous, M. Varnier, elle doit toujours exister. Mais vous, de votre côté, Jean-Loup de Saint-Phal, chez les Gilets jaunes, il y a nos représentants, comment on fait depuis 2 siècles ? Ça ne suffit plus, c'est bien ça ?
Exactement, ça ne suffit plus. Pour une raison déjà assez simple, c'est de regarder que dans les Gilets jaunes, on a quand même notamment des gens des classes populaires, des classes moyennes. Ce sont ces gens qui ne se reconnaissent plus, on ne se reconnaît plus, dans nos élites, donc que ce soit les représentants à l'Assemblée, au Sénat, le gouvernement, parce que en termes d'origine, de vécu, on est sur des gens qui n'ont rien à voir avec nous souvent. Et du coup, c'est ce qui a aussi traduit le malaise qui est exprimé par cette proposition, qui mettrait sur le devant de la scène des gens qu'on entend aujourd'hui plus du tout. À part quand on bloque ou quand on se fait entendre autrement.
Mais mettre des gens nouveaux sur le devant de la scène, justement, c'est pas ce que fait En Marche depuis qu'elle arrive au pouvoir, mettre des gens qui ne participaient pas au mouvement politique habituellement.
Là où je vois un problème avec la façon dont En Marche voit les choses, c'est que je pense que prendre le critère pour amener des gens nouveaux, prendre le critère d'un engagement encore neuf, etc., je pense pas que ce soit le critère intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'à l'Assemblée, par exemple, on n'a plus d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Ça, voilà. Ça, je pense que ce serait une représentativité intéressante, qu'on réentende des gens des classes populaires, pas juste des gens qui ne sont pas engagés politiquement, mais des gens qui ne viennent pas de la même société, qui n'ont pas fait l'ENA, qui n'ont pas fait des grandes écoles, qui ne sont pas ingénieurs. Voilà, c'est ça qui serait intéressant aussi. Mmh. Et c'est ce que permettrait un référendum permissible à tout le monde.
Mais il y a quand même de plus en plus de monde de la société civile, alors donc vous n'avez plus du tout confiance. On va essayer de voir aujourd'hui dans ce débat comment on peut aller vers plus de démocratie participative. Ce référendum donc, d'initiative citoyenne que vous proposez, c'est pas ce qu'on entend le plus quand même sur les ronds-points avec les Gilets jaunes. Vous faites de cette possibilité vraiment un cheval de bataille, Jean-Loup de Saint-Phal, du côté des Gilets jaunes. Pourquoi ?
Alors, je pense que cette revendication, effectivement, est intéressante, mais vous avez tout dit sur le fait que c'est pas la seule revendication. En fait, libérer du temps, libérer de la démocratie, eh ben, c'est très intéressant, mais ça peut pas être utile et efficace si on donne pas aussi des améliorations économiques et sociales pour que les gens puissent prendre le temps aussi de s'intéresser à la politique. Ça va avec le référendum. Que les gens puissent avoir... suffisamment pour ne pas penser qu'à la fin du mois et pour pouvoir s'intéresser de plus près à la politique en s'engageant. Ça va engager autre chose que le référendum.
Il y a quand même un effort qui est fait de ce côté-là, M. Varnier. Vous voulez réagir ?
Ben oui, parce qu'effectivement, c'est toute la démarche d'En Marche, justement. Moi, je ne suis pas, à titre personnel, un professionnel de la politique, loin de là. Je me suis engagé pour, justement, représenter les citoyens et dans le débat public. Et En Marche a construit son programme, justement, à travers la Grande Marche, qui a été à la rencontre des citoyens, qui a pris en compte leurs attentes, leurs desiderata, pour construire un programme réaliste. Maintenant, qu'il y ait des choses à optimiser, pourquoi pas. D'ailleurs, il y a dans les tuyaux la réforme de la Constitution qui est en cours et qui devrait, je pense... est une vraie opportunité de débat et d'échange pour faire avancer les choses et avoir une meilleure représentativité de toutes les tendances du pays. Pourquoi pas ? Je pense que c'est un sujet qui peut être mis sur la table, bien entendu.
Mais la majorité présidentielle, M. Varnier, donc elle veut vraiment mettre en place plus de démocratie participative. C'est vraiment ce qui va arriver avec cette réforme au mois de mars.
Il faut comprendre que c'est dans les gènes d'En Marche. C'est-à-dire que moi, quand je vois le mouvement des Gilets jaunes, j'ai l'impression qu'ils refont En Marche. Puisque c'est comme ça qu'En Marche s'est construit, sur un espèce de dégagisme aussi, pas de droite, pas de gauche, et que finalement, se faire le porte-parole de la société civile et des citoyens. Donc, pour moi, je pense qu'on est vraiment dans la même philosophie. Alors qu'après, cette volonté de cristalliser le débat sur le président, bon, on peut aussi se demander si c'est pas la revanche des perdants.
Mais dans ce que propose justement avec ce référendum d'initiative citoyenne les Gilets jaunes, il y a notamment cette volonté de révoquer les élus. Vous avez souligné, M. Varnier, le fait que les Gilets jaunes, en fait, sont surtout là un peu pour, entre guillemets, dégager le président de la République. Vous, c'est vraiment ça, cette histoire-là ? Est-ce qu'il n'y a pas juste cette volonté-là de dégager le président de la République du côté des Gilets jaunes ?
Alors, à ce niveau-là, en réalité, Emmanuel Macron, disons qu'on ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu en vrai, on n'a rien de personnel contre Emmanuel Macron, mais contre un système qui est défendu par Emmanuel Macron, qui est un ultra-libéralisme qui met sur la touche certains dans la société, et les mandats précédents allaient déjà dans ce sens-là. Je pense par exemple au mandat de François Hollande, où Emmanuel Macron était déjà ministre de l'économie. On fera mieux pour le dégagisme, justement, à ce niveau-là. Et c'est en fait justement pour moi ça qui est intéressant dans ce que vous disiez, c'est que je pense qu'effectivement il y a des gens qui se sont engagés à En Marche avec sincérité pour rénover la politique, mais je pense que ces gens-là doivent aussi voir que les Gilets jaunes montrent bien que sur certains points, Emmanuel Macron et le gouvernement ont échoué dans une certaine mesure. Par exemple, typiquement, leur vision de l'écologie, passant par la taxation du carburant, notamment pour les ménages les plus modestes, montre qu'on a un déficit dans le fait d'aller voir les gens qui travaillent, d'aller voir les gens qui ont des difficultés et de décider avec eux, pas juste décider en les sondant, en les interrogeant, mais bien qu'il y ait une souveraineté populaire. Ça se perd malheureusement. Et Emmanuel Macron, pour le moment, n'a pas réussi à faire autrement. C'est pour ça, pourquoi pas se dire, eh ben nous aussi on peut être l'Assemblée, nous aussi on peut proposer quelque chose. Comme ça Emmanuel Macron, qui est parfois dans sa tour d'ivoire, bah peut-être qu'il n'aura pas pensé à telle mesure, peut-être qu'il n'aura pas pensé à, je sais pas, par exemple à remettre un impôt sur la fortune ou tout ce genre de choses, bah peut-être que les gens peuvent faire mieux que ceux qui les dirigent des fois.
Donc pour vous, il n'y a plus de possibilité, même avec plus de démocratie participative, pour vous le lien il est rompu avec Emmanuel Macron, c'est ça, c'est vraiment ça?
Bah, c'est à lui de voir ça aussi, c'est-à-dire que c'est lui qui a le pouvoir, pas nous. Et s'il veut être dans une dynamique constructive, c'est possible. Mais là, ces dernières déclarations, par exemple, on est dans une optique assez condescendante où on va vraiment dans la façon dont son discours était structuré, où on va aller donner quelques mesurettes pour essayer de noyer le poisson, mais sans vraiment interroger les gilets jaunes sur ce qu'ils voulaient. Ça, c'est pas vraiment, alors, ça n'a pas vraiment été fait rigoureusement.
Si je me permets, 10 milliards, ce n'est pas quelques mesurettes. Hein. Je veux dire que jamais aucun mouvement n'a obtenu autant en si peu de temps avec, à travers les mobilisations. Je pense que il y a vraiment une écoute, mais simplement on entend un peu ce qu'on veut entendre, c'est-à-dire que aujourd'hui, moi aussi, j'ai écouté attentivement le président et Emmanuel Macron a clairement pris des mesures immédiates avec des impacts réels tout de suite, et ensuite il a clairement proposé en déclarant l'état d'urgence sociale et solidaire de lancer un grand débat national pour que justement les gens se rencontrent, puissent échanger, etc. Moi, je crois que le message des Gilets jaunes a été entendu. Je pense qu'aujourd'hui, on mesure pas encore l'impact économique dramatique qu'est en train d'avoir ce mouvement, malheureusement, et que ceux qui vont en faire les pots cassés et qui vont payer les pots cassés au mois de janvier, malheureusement, ça risque d'être encore des gens qui sont démunis, qui vont perdre leur emploi. Il y a vraiment un impact économique extrêmement important. Je crois que le message a été entendu, je crois que les gilets jaunes sont pris en considération, et maintenant il faut faire confiance à nos institutions, à la démocratie. Aujourd'hui, il y a des députés qui sont là, qui sont proches du terrain, qu'on peut rencontrer, on peut prendre des rendez-vous. D'ailleurs, des réunions avec des gilets jaunes ont été organisées. Je crois qu'Olivier Véran, hier soir, on a rencontré à Saint-Imier, etc. À Crolles, nous en avons rencontré également.
Mais vous pouvez l'arriver, Monsieur Varnier, en termes de démocratie participative, là, vraiment, là, vous parlez des conséquences de ce qui se passe avec les gilets jaunes. Là, si on se projette sur le long terme, plus de démocratie participative, vous y croyez vraiment? Ça peut. Est-ce que ce que proposent les gilets jaunes avec le référendum révocatoire, il n'y a pas une notion d'instabilité pour vous?
Moi, je n'arrive pas à me projeter dans un référendum révocatoire. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a des gens qui sont élus, on a des institutions. Vous avez un gouvernement qui est en place depuis 18 mois. C'est rien. Je veux dire, à un moment donné, il faut donner du temps au temps. On ne peut pas changer les choses en un claquement de doigts quand ça fait 30, 40 ans que le système est en place. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un concours de circonstances malheureux. Je dirais que du coup l'augmentation des taxes sur le carburant qui était liée en fait surtout à un niveau de prix du carburant très élevé, du pétrole tout simplement, a été la goutte qui a fait déborder le vase, mais du coup qui a masqué l'économie, le pouvoir d'achat qui a été redonné à travers l'exonération de la taxe d'habitation, de 30% de la taxe d'habitation, de l'augmentation d'un certain nombre de mesures. Enfin, c'est peut-être pas le sujet de revenir sur toutes ces mesures, mais...
On voulait vraiment rester vraiment sur cette idée de démocratie participative, comment l'améliorer? Alors, je peux te donner la parole, excusez-moi, monsieur de Saint-Phal, vraiment sur cette notion-là de ce que vous proposez avec le référendum d'initiative citoyenne. Vous réagissez aux propos de monsieur Varnier du côté de l'REM.
Justement, ce que je trouve intéressant, c'est justement moi, cette idée révocatoire, je la trouve intéressante. Parce que, par exemple, moi, je suis aussi étudiant. Emmanuel Macron avait dit qu'il sanctifierait le budget de l'enseignement supérieur, et ça n'a pas été fait. Alors, il y a eu d'autres mesures, etc. Il ne s'agit pas de faire le débat sur l'enseignement supérieur. En tout cas, je sais qu'il y a au moins une mesure, et il y en a d'autres qui n'ont pas été respectées. Et je pense que c'est ça qui est intéressant avec la révocation, c'est que ça met sur l'élu un contrôle supplémentaire. Ça fait vraiment de lui un serviteur du peuple et pas l'inverse. Et c'est en fait c'est ça aussi qui crispe chez les Gilets jaunes. On veut plus de démocratie. On n'est pas entendu. Il y a vraiment une implosion.
Monsieur de Saint-Phal, du côté des Gilets jaunes, il y a une limite. On s'est par exemple intéressé à ce qui se passe en Suisse. On voit notamment des limites. Nous avons un son avec un politologue et nous souhaitons l'écouter ici. On l'écoute.
Il y a là un paradoxe. On croit que c'est un système idéal et puis on voit qu'il produit parfois des situations extrêmement tendues, extrêmement négatives. Toutes les propositions de nature populiste ont du vent dans le dos et peuvent passer dans les urnes, connaître le succès, alors que les propositions de réforme, d'avancée, de progrès, généralement échouent, parce qu'il y a toujours une raison de refuser une modification, un changement qui ne nous convient pas directement. On s'aperçoit qu'au fond, quand ces votations populistes échouent, elles produisent quand même un effet dans la société en construisant, au fond, les idées et les thèses de ces mouvements.
Il est 16h54 sur Radio Campus Grenoble. Nous sommes toujours dans notre débat. Jean-Loup de Saint-Phal, vous représentez les Gilets jaunes. À votre avis, est-ce que vous n'avez pas peur que ces référendums aient surtout du succès uniquement sur les questions populistes, voire extrémistes?
Alors déjà, populiste, extrémiste et progressiste, je ne sais pas forcément ce que ça veut dire précisément. Ça peut aussi être des mots un peu vidés de leur sens qui servent aussi parfois au pouvoir à délégitimer certains adversaires. Je sais qu'effectivement, il y a eu des choses graves en Suisse, par exemple des votations qui pouvaient être islamophobes, je le sais. Toutefois, je pense qu'en réalité, quand on commence à avoir peur de la vie des gens, eh bien, c'est peut-être aussi qu'il y a une fracture qui est plus profonde, plus antérieure au référendum. Et moi, ce qui me fait peur en Suisse, ce n'est pas le référendum, c'est la xénophobie. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en France, je pense que les réformes qui vont être demandées par les Gilets jaunes, si ce référendum est mis en place, ça va être des réformes sociales, pas des réformes xénophobes.
Nous allons déjà devoir conclure ce débat. Je vais donner la conclusion à M. Varny, vraiment sur cette idée de ce qu'on voit en Suisse avec le système de votation. Ça pose des limites sur les partis populistes. Vous avez peur que ça se passe comme ça aussi en France?
Moi, je suis très réservé sur le référendum au niveau national. Pour l'instant, il est même à l'initiative du président. Mais si on prend les dernières références, le problème, c'est que les gens dans un référendum ne votent pas forcément pour la question qui leur est posée, mais plus pour se positionner par rapport aux instances dirigeantes. Donc, on répond pas à la question. Il y a qu'à voir le Brexit en Angleterre. C'est juste une catastrophe. On a fait croire des choses aux gens, etc. En ce qui concerne le référendum d'origine citoyenne. Oui, juste pour dire, à partir du moment où on est dans le concret des gens, beaucoup plus sur les territoires, je pense que là, il y a une légitimité parce qu'on va parler vraiment de choses concrètes aux gens. Après, élargir ça au niveau national, je suis plus que réservé et même plutôt farouchement opposé.
Merci Philippe Varny. Alors je vous rappelle, vous êtes suppléant de Catherine Kamoski, députée LREM en Isère. Et Jean-Luc Saint-Phal, vous faites partie du mouvement des Gilets jaunes à Grenoble. Merci à vous deux. Merci également à Aurélia Valarier et à Alexandre Lepère pour la préparation de ce dossier. Il est 16h57 sur Radio Campus Grenoble. Restez avec nous tout de suite, notre long format. Microcité jusqu'à 17h. Vous l'avez forcément aperçu, si vous vous êtes baladé sur le marché de Noël place Victor Hugo à Grenoble, il est là tous les après-midi depuis le début du mois, pour le plus grand bonheur des plus jeunes, mais pas que. Je parle bien sûr du Père Noël. Alors qui se cache sous son costume? Léo Corcos a voulu percer le mystère.
Merci beaucoup. Place Victor Hugo, une silhouette rouge distribue des papillotes. Petits et grands lui tournent autour, mais c'est exactement ce que cherche le Père Noël, c'est même ce qui le motive.
Mais non seulement ça me déplaît pas, mais ça m'enchante. Les étoiles dans les yeux des enfants, tout simplement. Et des plus grands aussi. C'est le fait que tout le monde puisse avoir un moment de bonheur, de chaleur et de convivialité dans leur foyer.
Dans le civil, vous l'avez peut-être croisé sans le savoir. C'est un homme de taille moyenne, coiffé d'un béret et vêtu de noir, car derrière la barbe se cache un artisan ébéniste, métier qu'il exerce 11 mois par an. En décembre, il enfile le costume, une routine depuis maintenant plus de 10 ans. Il ne s'était jamais imaginé être le Père Noël un jour, mais il a suffi d'un coup de pouce.
C'est tout simplement ma fille qui m'a proposé le poste, et je lui ai dit mais que j'étais bien incapable de faire le Père Noël, et je me suis retrouvé bien capable de faire le Père Noël, et j'en suis ravi, et je ne lâcherai pour rien au monde. Très sérieusement, je pense que la magie de Noël a opéré.
Il tient à ce qu'on l'appelle Noël, mais lui n'a jamais vu passer de grand barbu dans sa cheminée quand il était enfant. Alors il a misé sur l'empathie pour incarner son propre personnage.
J'essaye de faire abstraction de la vie d'aujourd'hui, enfin de la vie de ce qui se passe. Je reste vraiment le Père Noël et dans mon rôle de Père Noël. Avec les gens qui viennent me voir, c'est dans l'improvisation totale. C'est le cœur qui parle. Et je pense qu'il faut laisser parler le cœur pour faire ce rôle de Père Noël.
Et en 10 ans de passage à Grenoble, il a pu en entendre des histoires, mais pas toujours des plus heureuses.
J'ai énormément d'anecdotes, des gens qui ont eu des maladies, qui sont venus me voir, des moments très très durs à passer, mais il a fallu rebondir sur la personne qui suivait, des gamins qui arrivaient en pleurant et qui me demandaient comment j'allais faire pour rentrer chez eux. J'en ai plein la tête, j'en aurais pour des heures à toutes les expliquer.
Malgré le nombre d'années, il n'est pas prêt de s'arrêter. Bien au contraire, il s'est attaché au personnage. Aujourd'hui, le Père Noël, c'est une partie essentielle de sa vie.
De faire le Père Noël, c'est un peu mes vacances. Par la joie que cela procure aux personnes, aux gens, à l'être humain en général. La magie de Noël opère, ça j'en suis certain. Vu la morosité qui peut nous entourer, ça reste quelque chose de magique, de féerique et auquel je tiens énormément.
Un rôle qu'il prend très au sérieux, car comme il le dit...
Les plaisanteries, ça doit toujours être fait sérieusement.
Et aujourd'hui, il n'a plus qu'un mot à dire à sa fille.
Là, vous touchez une corde sensible, et je lui dirai juste merci.
Pour venir chercher un peu de magie ou tout simplement une papillote, rendez-vous tous les jours, place Victor Hugo.
Bientôt 17h sur Radio Campus Grenoble, bientôt l'heure de se quitter, mais avant, le rappel des titres avec Luc Chemla.
On l'a appris cet après-midi, 3 jours après l'attentat de Strasbourg, une 4e victime est à déplorer. Dans le même temps, l'enquête se poursuit. 7 proches du terroriste Sherif Chekat sont en garde à vue. Emmanuel Macron est attendu en fin de journée dans la capitale alsacienne. À la veille de l'acte 5 des Gilets jaunes, il est bien difficile de savoir quelle sera la mobilisation. Les porte-paroles du mouvement ont appelé à poursuivre les manifestations demain à Paris. Les autorités se préparent à d'éventuels débordements. 8000 policiers et gendarmes sont notamment mobilisés.
Microcité.
Microcité, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis et merci particulièrement à Chris en régie. Pour nous réécouter, rien de plus simple, rendez-vous sur campusgrenoble.org. On se retrouve l'année prochaine, le 25 janvier. En attendant, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à l'écoute de Radio Campus Grenoble 90.8.